Bonjour Tiphaine, bonne journée.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. La vie du Gréco, elle se confond avec cette lente translation qu'il a effectuée depuis la cité de Candie, aujourd'hui Héraclion en Crète, jusqu'à Tolède en Espagne où il s'est fixé définitivement. Sa personnalité, on l'a décrite comme irascible et intransigeante, lui qu'on disait très conscient de son génie, qui aimait les plaisirs et avait à demeure des musiciens pour le divertir durant ses repas. Tout cela, Pascal Hamel nous l'a raconté lundi au cours d'une émission à retrouver en téléchargement. Et puis mardi, nous avons déambulé dans les salles de l'exposition Gréco qui se tient au Grand Palais à Paris jusqu'en février prochain avec Charlotte Chastel-Rousseau qui en est la co-commissaire et Véronique Gérard-Powell, autre spécialiste du Gréco et qui a notamment contribué au catalogue de cette exposition. Enfin hier, c'est Guillaume Kintz, lui aussi commissaire de cette même exposition, qui est venu replacer le peintre d'origine grecque dans le siècle d'or espagnol. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, au dernier jour de notre parcours dans l'œuvre et la vie du Gréco, nous sommes en compagnie du peintre Jean-Paul Marcheschi, auteur d'un livre intitulé « Un grand sommeil noir, le Gréco » aux éditions Artois, où il a publié également d'autres ouvrages comme celui consacré à Goya ou celui consacré à Piero della Francesca. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres.
Une lettre de Giulio Clovio nous montre Gréco à Rome. C'est une précieuse photographie. Cette lettre nous permet d'imaginer Gréco. Mais ce qui cause la stupeur de Giulio Clovio ne lui en causerait aucune en Orient ou en Espagne. Les hommes s'y protègent contre le soleil. Ils sortent le soir et le jour se calfeutre. Dans cette nuit factice, les âmes brûlantes se trouvent à l'aise. Elles reçoivent d'autres lumières. Gréco médite. Il veut rester seul. Il ne veut pas se promener. Il envoie promener son hôte. Peu lui importe que le délicieux soleil de printemps mette tout le monde en joie. Il veut tirer de l'armoire les petites figures de cire qu'il sculpte et qui lui servent de modèle, et comme un envoûteur, les douer de vie.
Un extrait du livre « Le mythe du Gréco » de Jean Cocteau, lu ici par Pierre-Marie Baudouin. Bonjour Jean-Paul Marcheschi. Est-ce que vous aussi, quand vous peignez, vous vivez calfeutré dans un atelier comme le faisait le Gréco ?
Oui, mon atelier, étant donné le pinceau de feu, ce que j'ai nommé mon pinceau de feu, étant donné que c'est un flambeau, et je peins, j'ai voulu être peintre très, très, très tôt, à l'âge de 14 ans, donc ça fait déjà un demi-siècle désormais. Et en effet, chez moi, ça, c'est une caverne. Je ne sais pas si celle du Gréco, d'ailleurs, était aussi caverneuse. Mais c'est le propre de la peinture, tout de même, n'est-ce pas ? On tâche, on se tâche, et c'est pour moi, c'est aussi son charme.
Alors, il faut dire tout de suite ce que c'est que ce pinceau de feu. Vous avez décidé, il y a maintenant plusieurs décennies même, d'abandonner le pinceau, la couleur, pour le flambeau et la cendre. Racontez-nous ça.
Oui, alors, je n'ai pas abandonné la couleur, n'est-ce pas ? Donc, le pinceau de feu s'est emparé de ma peinture, mais il n'est pas l'unique, il n'est pas exclusif. L'huile, tout ce qui peut se mélanger avec les matières fournies, déposées par le feu, s'y ajoute. Je n'ai jamais renoncé à la peinture. Quant à l'origine du feu, j'ai si souvent eu à répondre à cette question. Maintenant, je prends la liberté de... Voilà, c'est une fable. Je réponds, j'invente, je varie, j'improvise. Mais enfin... il y a un fond de vérité lorsque je vous dirais que c'est tout à fait par hasard, lors d'un voyage à Stromboli, donc en Méditerranée, sur une île miraculeuse, qui a un certain passé, hein, puisque c'est là qu'a été tourné Stromboli, Terre de Feu, de l'un de mes cinéastes préférés, Rossellini. Donc, la vision, l'apparition de ce volcan, qui est comme une figure géométrique parfaite, hein, c'est un cône qui surplombe la mer, et on arrive à l'aube. On prend le bateau à Naples, on arrive, on part dans la nuit, et on arrive à l'aube, c'était l'été. Et donc, cette vision, cette apparition, j'avais avec moi des feuillets, hein, on ne sépare jamais de quoi peindre, et le hasard avait fait qu'il y avait, j'en tirais quelquefois des gris, il y avait un flambeau, enfin une bougie. Et donc, le volcan a fait naître les premiers feux.
Et en même temps, on pourrait peut-être penser que c'est aussi en regardant le Gréco que vous avez eu envie de peindre de cette manière-là, parce que les figures très allongées du Gréco sont des corps que vous appelez les corps flammes. Et on peut peut-être obtenir un petit peu un effet similaire quand on peint comme vous, avec du feu.
Oui, d'autant que la passion pour le Gréco, hein, n'est-ce pas, est extrêmement ancienne, elle précède le feu.
Alors de quand date-t-elle cette passion pour le Gréco que vous avez ?
Alors pour le Gréco, écoutez, je peux la restituer assez facilement, n'est-ce pas ? Je crois que je devais avoir 11 ans ou 12 ans, et c'était dans le milieu d'où je viens, hein, le milieu des dockers et des pêcheurs bastiais auxquels j'appartiens. J'avais vu dans les dictionnaires Larousse, il y avait ces pages réservées à la peinture en couleur. Et il y avait donc la page art espagnol, peinture espagnole, et j'avais été très très attiré par le Gréco. Voilà. Mais pour en revenir un instant aux flammes, il y a en effet, dans le cas du Gréco, une emprise du feu. Non seulement il y a, comme vous le soulignez, une sorte de devenir flamme, n'est-ce pas, comme parler comme Deleuze, il y a des devenirs innombrables, hein, dans le cas du Gréco, mais ça...
C'est quoi le devenir flamme des corps du Gréco?
Alors justement, c'est très difficile de dire d'où vient... Alors, et puis il y a la représentation des flammes, hein, donc il y a la fête des flammes, c'est la Pentecôte chrétienne, bien entendu. Mais je crois qu'on n'a pas résolu cette énigme, hein. La cause du feu, des flammes et du devenir flamme est une des innombrables énigmes à laquelle peut-être la postérité répondra un jour ou l'autre.
Alors c'est peut-être pour tenter de résoudre cette énigme que vous êtes allé au début des années 80, vous promener du côté de Tolède, vous en parlez dans votre livre. Est-ce que vous y alliez pour voir les peintures du Gréco? Est-ce que vous y alliez parce que vous saviez qu'il avait vécu là-bas?
Oui, puisque ma passion pour le Gréco a dépassé le demi-siècle, hein, et donc, oui, j'avais été... Tolède ne m'attirait pas spécialement, même si la ville est très très impressionnante. Mais j'avais pu en voir, parce que elle est présente dans les fonds du Gréco. C'est jamais, il n'y a rien qui fasse la moindre allusion à son origine insulaire. Mais il y a une similitude pour qui a été en Crète entre le paysage aride, très austère, âpre, violent de Tolède, n'est-ce pas, et la terre de Crète où le hasard a fait que j'ai exposé. Mais 11 minuit, les premières nuits et sommeil, j'ai été invité en Crète à Rétimnon.
Donc les 11 000 nuits, c'est un projet qui vous a occupé pendant 13 ans.
13 ans, voilà.
Et qui était un projet dont le sommeil...
Le sommeil est central. Voilà. Qui a été une observation méticuleuse du sommeil, oui. Tout à fait.
Vous avez observé le sommeil.
Le mien.
Et vous voyez, dans les peintures du Gréco, aussi le sommeil.
Oui, oui, oui. Je crois que ça n'est pas du tout fortuit. Je crois que le sommeil sous-tend, et il faudrait y ajouter, hein, le sommeil, mais aussi le songe. Pour prendre ce mot très beau, plutôt espagnol, el sueño. Mmh. Donc, il y a à la fois, quelquefois, n'est-ce pas, dans l'adoration du nom de Jésus, le songe Philippe II, il y a, on entre dans une sorte de rêve, n'est-ce pas, de sueño. Voilà, donc le sommeil est très actif à mes yeux dans l'ensemble de l'œuvre du Greco.
Et on y reviendra parce que c'est très important dans votre livre, dont je rappelle le titre, Un grand sommeil noir, le Greco. Sommeil noir, tiré du poème de Verlaine et chanté ici par Mireille Delinche. C'est une musique de Edgar Varèse. Vous l'avez sans doute beaucoup écouté aussi, cette musique-là.
Oui, mais j'ai une véritable passion pour Edgar Varèse, n'est-ce pas ? J'ai eu à faire quelquefois des émissions sur France Musique et la peinture, et c'est une œuvre que j'écoute beaucoup chez moi. Je l'aime infiniment.
Alors, pour revenir au Greco et au sommeil, est-ce que c'est une peinture qui représente le rêve, la peinture du Greco, le songe, El Sueño ?
Alors, je crois qu'il faut... il y a, en effet, dans l'histoire de la peinture, les peintres du sommeil, et quelquefois, ils ne communiquent pas avec les peintres du rêve. Le surréalisme s'est emparé du rêve. Je n'ai pas une passion pour l'art surréaliste, surtout la littérature, oui, mais l'art pictural, n'est-ce pas ?
Pourtant, certains surréalistes ont pu se revendiquer du Greco.
Oui, alors, c'est pas à qui vous pensez.
À Dali, par exemple.
Oui, ben justement, il me semble que, heureusement pour moi et pour la peinture, je trouve la peinture de Dali, c'est l'Almanach des Postes, une peinture extrêmement conventionnelle.
Oui, mais certains ont dit que le Greco, c'était kitsch aussi.
Alors oui, mais enfin, entre le kitsch de Dali et le supposé kitsch dont je parle d'ailleurs dans mon petit livre...
Qu'est-ce que vous en dites alors ?
Il y a un monde. Ben, je dirais dans le cas de Dali, oui, à mes yeux, c'est l'almanach du poste total, généralisé. Tout est kitsch, enfin je n'ai vraiment... J'aime bien le commentaire, le langage de Dali. Et j'aime bien son cinéma. Il aurait dû poursuivre, mais sa peinture, non. C'est vraiment, voilà, il n'y a aucune vivacité de la peinture. C'est l'anti-Gréco, absolu. Le Gréco n'aurait probablement jamais aimé Dali.
Mais c'est vrai qu'on l'a taxé parfois, le Gréco, d'avoir mauvais goût, en particulier à cause des couleurs. Parce que les couleurs sont extrêmement étonnantes, elles sont presque brillantes, elles appellent finalement à quelque chose de presque trop. Enfin, ça a été en tout cas ce que la critique a pu en dire au cours des siècles.
Oh, il s'en est raconté beaucoup de bêtises. Hein. Il y a une histoire d'ailleurs néfaste. Hein. On pourrait écrire un livre sur l'infortune critique du Gréco et on pourrait occuper je ne sais combien de volumes. Je pense que c'est totalement faux, enfin... Je pense que c'est le plus grand coloriste de tous les temps, véritablement. Là, il y a une aventure proprement de ce que peut faire la peinture, d'un peintre-peintre, qui n'est pas que peintre-peintre. Mais, comme dit Artaud à propos de Van Gogh, rien que peint, lui dit, rien que peint Van Gogh, on pourrait dire, rien que peint le Greco. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'œuvre qui, comme la sienne, a pu... engendrer, influencer, attirer non seulement les plus grands littérateurs, les plus audacieux, dans tous les siècles, mais les plus grands artistes, enfin les effets du Gréco à partir du 19e siècle, continuent et continueront.
Alors, il faudra en reparler parce que c'est vrai que c'est très très important. Mais avant de parler de ceux qui ont regardé le Gréco, il faut peut-être parler de ceux que le Gréco a regardé. Parce que c'est vraiment un peintre et aussi parce qu'il a voyagé dans toute l'Europe du Sud, autour de la Méditerranée. C'est vraiment un peintre qui a assimilé tous les styles Jean-Paul Marceschi.
Oui, alors c'est un destin. La trajectoire du Gréco est fascinante quand même. D'abord, donc, il faut imaginer, donc, il naît en 1541, dans une famille qui est relativement cultivée. On a dans l'exposition, qui est très belle,
l'exposition du Grand Palais,
quelque chose que je n'avais jamais vu. Je l'avais vu reproduit, mais on a l'écriture du Gréco, qui atteste une écriture d'homme cultivé, n'est-ce
c'est
pas ?
C'est une écriture de peintre ?
Alors, pas forcément, parce que mon écriture est celle de certains peintres, plutôt de déments. Si on regarde les écritures de certains peintres, elles ne sont pas forcément aussi ouvragées, aussi élégantes. C'est le cas du Gréco. Elle est très belle, son écriture. Ce qui est en effet peu classique, c'est surtout les contenus des remarques cinglantes du... Et c'est son orgueil, hein. Je crois qu'il y a, on peut dire une arrogance, mais peut-être il y a un orgueil, une insolence. Il n'y a rien qui soit ennuyeux dans ce qu'il a laissé, du point de vue de ces phrases extraordinaires.
Mais il y a l'orgueil par rapport à la peinture de Michel-Ange, par exemple, on pourra aussi y revenir. Mais j'aimerais qu'on reste sur cette idée de l'assimilation, et peut-être de l'assimilation du Titien. Il a beaucoup copié, on pourrait dire voler, mais c'est ce que font tous les peintres, le Titien.
Oui, enfin, je crois que le mot de vol ne s'y applique pas. Enfin, il y a, en effet, il y a quelqu'un qui a à faire une opération d'assimilation tout à fait anormale, puisque il y a un premier être, le Gréco, est l'un des meilleurs peintres d'icônes, jusqu'à son arrivée à Venise. Bon, et il est cet art néo-byzantin est dans sa phase de décomposition. C'est un art qui a été abandonné depuis très 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 longtemps. C'est un art qu'il maîtrise plus ou moins. Bon, mais ce n'est pas à ce moment-là un art, la Crète n'est pas à l'apogée de l'art byzantin. Il suffit d'aller à Saint-Vital et à Ravenne. Là, on voit l'art byzantin à son sommet, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit l'impératrice Théodora, l'empereur Justinien, enfin, les salles de Ravenne, oui, témoignent de l'art byzantin dans son moment absolument miraculeux et éclatant. C'est pas le cas du jeune Gréco. Voilà. Donc, il met, Candy, qui est l'actuel Héraclion, n'est pas totalement isolé. Donc, il reçoit des informations. Il pressent, n'est-ce pas, que il y a eu 2 siècles d'invention. C'est la plus grande aventure de la pensée peinte s'est produite en Italie, dans toute l'Italie, très peu en Espagne finalement, assez peu en France. C'est l'Italie qui va voir se succéder depuis Cimabue et jusqu'à Rosso, Pontormo, le maniérisme. C'est 2 siècles d'inventions absolument supérieures, extraordinaires.
Donc, cette maîtrise tout de même de l'art byzantin, dans quel tableau postérieur le retrouvez-vous, Jean-Paul Marceschi?
Alors, il va l'abandonner et le laisser choir.
Il doit bien en rester quelque chose, non?
Alors, à mes yeux, oui. Hein, je pense que la souche crétoise, et c'est d'ailleurs sa grandeur, explique probablement. Mais, puisque vous me demandiez d'abord la question des copies, de l'apprentissage entre guillemets. Il est visible au Grand Palais, il est visible dans une rétrospective plus grande encore. Donc on voit très successivement, on pourrait faire le diagramme de son apprentissage, n'est-ce pas ?
Donc qu'on y apprendrait finalement ? Qu'est-ce que le Gréco qui repeint par exemple 20 ans plus tard le Christ et les marchands, qu'est-ce qu'il a changé finalement durant ces 20 années? Qu'est-ce qu'il a appris?
Alors, la grande sidération, bon, on dit qu'il aurait été l'élève du Titien. Certes, Titien joue et fonctionne jusqu'à la fin comme une influence, mais une influence est tout à fait, ça ne signifie pas une dévoration. Enfin, le Gréco accueille le Titien, et on pourrait repérer la présence du Tintoret. C'est quand même le grand choc du Gréco, c'est le Tintoret, c'est Véronèse. Donc, il va... ce qu'il reçoit de Venise, d'abord, c'est la grande aventure de la couleur, justement. N'est-ce pas ? Il y a le conflit ancien de la peinture et de la couleur et du dessin. Florence, c'est le dessin, et Venise, c'est la couleur, n'est-ce pas ? Et au fond, il s'inscrit là-dedans, le Gréco, n'est-ce pas ? Même si ce à quoi va s'attaquer le Gréco, nul ne l'a. Et c'est peut-être ça, à mes yeux, un des signes du retour de Byzance. C'est cette sorte de... Il y a un détruire de l'image naturaliste monoculaire de la Renaissance, n'est-ce pas ? Qui évoque, et qui est plus qu'évoqué, on pourrait, si on étudie un tableau, plusieurs même, voir qu'on a quelque chose qui, dont les cubistes vont s'emparer, n'est-ce pas ? Qui peut évoquer le baroque, qui peut évoquer l'expressionnisme allemand. Bon, la descendance du Gréco est déjà très très manifeste. Il va s'attaquer à la structure, et pas seulement à la couleur.
Les chevaliers de l'enterrement se tiennent aussi silencieux que le comte d'Orgaz qu'ils sont en train d'ensevelir. Les mains seules parlent. Les mains, en général, sont ce qu'il y a de plus éloquent dans cet art étrange. Le Gréco est un de ces rares artistes qui nous enseigne la noble leçon que les mains sont beaucoup plus révélatrices que la parole, et nous rappelle l'énergique apostrophe du vieux poème sur le Cid. Disposant de langue, sans les mains, comment pourrions-nous parler ? De vraies mains ailées, celles de ces personnages, tout comme les paroles chez Homère. Et il faut les entendre, ces mains ailées, tantôt croisées sur le sein de chevalier ou de saint, tantôt dressées en des raccourcis fantastiques. Il y en a une, surtout, qui paraît une colombe mystique, la détentrice du secret sublime de la mort. C'est la main qui semble appartenir à un des chevaliers de l'enterrement, et qu'entourée d'une manchette de dentelle, on voit surgir des ténèbres, entre Saint-Étienne et Saint-Augustin, juste au-dessus du cadavre du comte d'Orgaz. Les mains semblent toujours, chez le Gréco, vouloir sortir de ce monde, s'élever en volant vers le ciel, et là, jointes ou tendues pour la prière, se diriger vers Dieu. De ces mains glorieuses, il y en a aussi dans les cieux de ces toiles.
C'est la compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture avec cet extrait d'un texte de Miguel de Unamuno dans Reseña dell'Arte qui date de 1914. Vous le savez très bien, Jean-Paul Marcheschi, car c'est un texte que vous reprenez dans votre livre. Pourquoi est-ce qu'il vous a frappé ce texte sur la manière dont le Gréco dessine et peint ses mains ?
Alors, ce texte, je l'avais lu, mais j'admire très profondément le destin tragique d'Unamuno, qui est un immense... poète et écrivain espagnol, et qui excelle à peu près dans toutes les manières, hein, aussi bien dans l'essai, dans les nouvelles, par exemple, qui sont tout à fait extraordinaires, et dans le commentaire d'art. Donc, en effet, Unamuno, avec quelques autres poètes espagnols, sur lesquels j'ai eu à travailler, je suis extrêmement attiré par l'espagnol. D'ailleurs, je cite dans mon livre, et je le connais un peu par cœur, le sublime sonnet, qui est le tombeau, qui est donné comme un tombeau de Góngora au propos du Gréco.
Alors, on a dit que Gréco s'était attaqué au Tintoret, qu'il s'était attaqué au Titien. Vous expliquez que finalement, il détruit, tout en reprenant toutes ces références qu'il a regardées, mais qu'il a absolument modifiées. Est-ce qu'il fait le procès, finalement, de la peinture qui le précède ?
Écoutez, je pense que, et là c'est la phrase célèbre de Proust, mais je crois que, moi j'ai de très nombreuses admirations en tant que peintre, ou même des admirations poétiques ou autres, mais l'admiration peut être une sidération. Elle peut empêcher de trouver votre propre poésie, ou si on est peintre, votre propre peinture. Donc, Proust le dit très bien, il faut détruire ce que l'on admire. Voilà. C'est une destruction qui n'est pas une pure négativité, bien entendu. C'est, pour moi, le Gréco, c'est le peintre de la joie absolue. Ça peut sembler paradoxal.
C'est une joie un peu étrange, quand même.
Oui, elle, pour moi, je pourrais tout à fait la désigner, enfin. D'abord, je la ressens. Ça me suffit. Alors, l'exposition du Grand Palais ne montre pas assez du Gréco pour peut-être établir cette... Mais au fur et à mesure que la mort avance, la joie augmente, et le génie aussi, l'audace aussi. Donc, ça peut sembler paradoxal, puisque les gens sont aveuglés par le sens et par le sujet. Ben, il n'est pas libre de ses sujets. Il est doublement enchaîné. D'abord, c'est un étranger, donc il est un peu dans ses petits souliers. Il faut pas, imaginons que l'Espagne, notamment, l'Inquisition est terrible, n'est-ce pas? Et on l'a à l'œil, si je puis dire.
Donc il y a de la joie dans toutes les larmes représentées par le Gréco, dans tous ces visages, qui, c'est vrai, ne sont pas toujours tristes, mais sont parfois tout simplement pensifs.
Pour moi, il n'y a strictement aucune tristesse, d'abord. Et certes, les larmes, peut-être, mais il faut voir la façon dont c'est peint. C'est là, pour le coup, dans la manière. C'est une image qu'on pourrait dire, pour reprendre le beau titre du Tasse, Lima, donc la Jérusalem délivrée, mais un peintre a mieux à faire, il a surtout à délivrer l'image. Donc, j'ai failli intituler mon livre, Le Gréco, l'image délivrée. C'est une image absolument délivrée. Donc, elle ne dépend pas du sens. En ce sens, elle est l'occasion d'une aventure purement de la couleur, mais pas seulement de la couleur.
Et c'est ça qui vous donne de la joie. Vous dites même que ça vous donne envie de vivre.
Tout à fait. Oui. Non seulement, moi, ça m'a donné envie de vivre, mais le Gréco, cette œuvre me donne envie de vivre, en effet. Une œuvre qui ne donne pas envie de vivre, c'est la joie, tout simplement. Mais elle a provoqué en moi le désir de peindre. Et je suis pas le seul, apparemment.
On va continuer à en parler. On va parler aussi de ces autres peintres qui ont eu envie de le devenir grâce au Gréco. Mais tout de suite, nous sommes jeudi. On retrouve la chronique du jeudi présentée aujourd'hui par Pascal de Thurens.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à vous Pascal de Thurens. Vous êtes professeur de littérature comparée à l'université de Strasbourg, d'où vous nous joignez aujourd'hui en duplex pour nous parler d'un Gréco considéré par beaucoup d'écrivains, rien moins que comme un barbare. Racontez-nous ça.
Oui, alors un barbare, ça peut paraître étonnant de parler d'un grec en termes de barbare pour les... Pour les Grecs, on le sait, les barbares, eh bien, c'est nous, ce sont tous les autres. Mais Alors, moi, je pense toujours à ces mots de Claudel qui écrit beaucoup sur la peinture espagnole du siècle d'or et plus particulièrement sur le Gréco. Alors, ce qui m'intéresse chez lui, chez Claudel, c'est quand il écrit que le message du Gréco, c'est celui de la contre-réforme, c'est-à-dire, eh ben, ça c'est Claudel qui l'écrit, il faut remettre droit le char penchant de la chrétienté. Alors, l'art là-devant. Et ce Gréco, écrit encore Claudel, ben ce Gréco, il n'y a qu'à regarder, eh bien, c'est le peintre de l'effort, ça n'est pas celui de la paix. Alors il donne comme exemple ce portrait assez unique en son genre d'Ignace de Loyola, en commentant d'une phrase et s'exclamant « Voici le conquistador de Dieu ». Alors, est-ce que pour autant le Gréco est devenu impossible à regarder aujourd'hui? On pourrait se poser la question. En tout cas, il est vu d'emblée de jeu comme l'artiste des exercices spirituels. Donc à la fois, comme tout exercice, spirituel ou non, il est à la fois roboratif, mais éprouvant, jusque dans ces couleurs dont on parlait il y a un instant. Alors, le plaisir en art, ah non, on n'est pas là pour ça. Ça, moi, ça me fait réfléchir. J'avoue que je suis sidéré, un peu inquiet devant le Gréco, de la joie, non, alors de la joie certainement pas, mais plutôt ce que l'on peut ressentir comme Cocteau, par exemple, qui écrit très bien sur le Gréco. Cocteau qui voit dans le Gréco un étrange étranger, et même, il le dit à plusieurs reprises, c'est un barbare, hein, c'est celui qui arrive à Tolède avec une vision énorme, une vision violente, et puis... Cocteau, là encore, dit ceci de très juste, c'est que Gréco, c'est l'inventeur d'une beauté laide. Alors, une beauté laide, c'est pas un jugement de valeur, puisque Cocteau conclut en disant que cette beauté laide, il l'a faite noble par amour. Il y a quelque chose de fascinant, là.
Est-ce que vous diriez, Pascal de Thurens, que cette beauté, il l'aime vraiment? Ou est-ce qu'il y a autre chose de plus intéressant, de plus important pour lui que la beauté?
Oui, je me suis longtemps posé la question, et comme tout le monde d'ailleurs, hein, est-ce qu'un peintre pourrait être incapable d'aimer la beauté du monde? Enfin, moi qui ne suis pas peintre, mais qui passe mon temps avec eux, c'est une question qui est récurrente.
Ça vous angoisse, on dirait.
En tout cas, ça m'inquiète. Pour revenir au Gréco, est-ce qu'il a seulement aimé la beauté, ou bien est-ce qu'il y a eu pour lui autre chose de plus précieux que la beauté à révéler?
Comme quoi, par exemple?
Alors, il y a un mystère, il y a vraiment quelque chose de déconcertant dans cette œuvre. On sait, par exemple, qu'il veut repeindre les fresques de la chapelle Sixtine. Hein, alors, ce n'est pas seulement parce que sur ces fresques, il y a des nus indécents, mais parce que Michel-Ange manque de couleurs. Il ne sait pas peindre la carnation humaine, ça c'est ce qu'écrit le Gréco. Hein, il dit, je crois, je cite de mémoire, à propos de Michel-Ange, c'était un homme bon, mais qui ne savait pas peindre. Pour répondre à ça, simplement se souvenir de ce que les écrivains ont dit de ce peintre hors du commun. Pensez par exemple à quelqu'un qui est un grand critique d'art, hein, comme Théophile Gautier.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire sur Gautier, puis aussi sur Maurice Barrès, dont je crois que vous voudriez nous parler, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, ce qu'il disait du Gréco?
Ah mais oui, alors ça c'est très intéressant pour Théophile Gautier. Théophile Gautier écrit en 1843 un voyage en Espagne. Évidemment, il parle de Tolène. Et à Tolène, Théophile Gautier voit dans le Gréco un peintre génial. Ça, c'est l'adjectif qui revient souvent. Mais, dit-il, il est génial, mais il souffre de problèmes oculaires. Et même, il est atteint de folie. Et la preuve, dit Théophile Gautier, c'est que l'œuvre du Gréco porte partout la trace d'une dégénérescence picturale. Hein, je le cite, alors. Mais je crois que l'un des textes les plus beaux et les plus profonds, surtout sur cette œuvre, et ça permet de poser la question de la fascination, c'est le texte que Maurice Barrès lui consacre en 1911 et qui s'intitule, c'est un beau titre de roman, Gréco ou le secret de Tolède.
Alors dites-nous un petit peu, parce que l'horloge tourne, de quoi il retourne?
Alors, il y a un secret pour Barrès, c'est que Gréco, c'est celui qui a rompu avec le pittoresque, avec le paganisme sensuel hein, de Venise et de Rome. Allant aux toilettes, c'est autre chose. Hein. Le Christ en croix, celui qu'on voit au Louvre, là, ça n'est pas seulement la passion, c'est vraiment le ciel qui se déchire, hein, c'est le ciel qui crie. Et là-devant, pour Barrès, eh bien, la splendeur, la douceur, les larmes n'ont pas leur place. Hein. À Tolède, écrit Barrès, à Tolède, on ignore la beauté aimée pour elle-même, comme l'aime l'Italie.
Merci beaucoup Pascal de Thurins. On aurait pu parler aussi d'Elifort, de Malraux et même du côté des écrivains grecs de Kazan Tsakis. Je renvoie nos auditeurs à ce sujet sur tout ce qui a été publié et notamment ce que vous avez pu en dire. Merci Pascal de Thurins. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature comparée à l'Université de Strasbourg, que vous vous intéressez donc notamment au lien entre peinture et littérature. Votre dernier livre, L'émerveillement de la présence dans la poésie et l'art moderne, apparu cette année aux éditions L'Atelier Contemporain. Toujours la compagnie des œuvres sur France Culture, au dernier moment de notre série consacrée au peintre de Tolède, Dominikos Theotokopoulos, alias Le Greco. Nous sommes toujours avec le peintre Jean-Paul Marcheschi, qui publie aux éditions Art3 le livre intitulé Le Grand Sommeil du Greco. Nous repartons dans cette émission avec une archive du romancier, poète et cinéaste Fernando Arrabal, qui était au micro d'Olivier Germain Thomas en 2006.
Parce que le Greco, maintenant, nous imaginons tous que personne ne pouvait ne pas l'aimer. Et il a passé 3 siècles condamné par tous. Et il est merveilleux d'aller au Musée du Prado, où il a la plus grande quantité de Greco. Et il a des grands tableaux de Greco. Que les nobles, l'aristocrate qui avait acheté ces tableaux, disait, comment je peux mettre ce tableau sur les murs? C'est si laid. Il est malade des yeux. On disait qu'il était malade.
Oui, que c'était à cause de ça qu'il déformait la réalité.
Il prétendait cela. Oui. Vous avez raison.
Stupidité.
Alors, les nobles, l'aristocrate, les riches, découpaient en bas. Il avait un oiseau. Il les découpait. Et alors, il y a des tableaux au Prado, qui sont pleins de taches noires. C'est les morceaux par ces différentes coupures qui sont. Et alors, grandeur et misère de la littérature, de l'art, 3 siècles. Pourquoi nous sommes si pressés? Pourquoi vouloir avoir tout de suite ces prix, ces loteries qui sont les prix? 3 siècles a tenu, et à la fin, il a été revendiqué par les meilleurs. Mais lui aussi était un merveilleux fanatique.
Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire, cette destinée du Greco, Jean-Paul Marcheschi. De son vivant, une assez grande notoriété. Et puis, tout d'un coup, ou pas d'ailleurs, mais au fur et à mesure, dans les dernières années de sa vie, on a le sentiment qu'il s'efface, et après, il y a ces 3 siècles où c'est comme s'il disparaissait avant d'être retrouvé, redécouvert par les avant-gardes. Comment vous expliquez ce trajet? Alors,
il faudrait quand même, je reprends le chroniqueur au sujet du Greco, il a quand même eu de son vivant deux des plus grands poètes de tous les temps qui ont été ses amis, qu'il a peint, et je pense évidemment, hein, à, probablement, c'est mon poète préféré, n'est-ce pas, qui lui-même a scandalisé, il s'agit de Gongora, hein, et ses solitudes, et n'oublions pas le sonnet « Iris colores febo luces in sombras morfeo ». Donc, on pourrait décomposer. C'est à la fois un poème musical absolument novateur, magnifique, mais en même temps, c'est une décomposition très juste du Gréco. On pourrait tout tirer de ce vers que je viens de, enfin de ces trois vers que je viens de citer. Donc ça, il y a Euphra et Félix Paravicino qui l'a peint, qu'on peut voir actuellement, et qui était à la fois un très grand théologien et un merveilleux poète. Ce que lui a écrit sur le Gréco est absolument extraordinaire. Donc il ne faut pas oublier qu'il aurait rencontré Gangora. Gangora a été...
Pour vous même, c'est sûr, hein, il l'a rencontré.
Oui, c'est évoqué. Vous savez, concernant le Gréco, comme beaucoup d'artistes de cette époque, il faut être extrêmement prudent, on sait très peu de choses.
D'accord. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur, du coup, la question de la disparition, quand même pendant trois siècles, de l'importance du Gréco et de son retour. Est-ce qu'on peut tenter de l'expliquer un petit peu?
Bon, alors, pour moi, si on examine, là, je connais assez bien tout ce qui va arriver après, il est vrai que on va trouver un autre de mes dieux que je préfère à celui qui, d'une certaine façon, l'a fait naître. C'est un autre espagnol, Giuseppe de Ribera. Voilà, je suis en train d'écrire un petit livre qui s'appellera un petit dépôt de saleté sous les ongles. Joseph de Ribera. Bon, il va y avoir un art qui va tourner complètement le dos. Ça n'est pas un art de la fusis, si on veut parler c'est-à-dire... un peu savamment, c'est-à-dire qui va mettre l'accent sur la matérialité propre de la peinture, dans le sens moderne. Hein, voilà. Dans le cas de, si on regarde le... Il y a la phrase célèbre au sujet du Caravage, il est venu détruire la peinture. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde le Caravage, qui est une œuvre miraculeuse et incroyablement exigeante, mais il est aussi le précurseur de la peinture lisse, la plus académique du 19e siècle.
Alors que le Gréco, pas du tout.
Non. Pas du tout. Cela dit, que le Caravage est un immense artiste et ma préférence va nettement à Ribera, bien entendu. Hein. Mais donc, les siècles vont... C'est l'esthétique qui va nous détourner notre regard. Cela dit, les érudits garderont un œil sur la peinture. On peut aimer les deux. Moi, j'ai une passion pour Ribera et j'ai une passion tout aussi égale qui jamais ne s'éteindra pour... Domenikos Theotokopoulos.
Mais alors, sa renaissance, elle passe quand même au XIXe siècle par la France. Comment ça s'organise, ça? C'est avec les salons d'automne, c'est avec les galeries du Louvre. Comment ça revient, finalement?
Oui, peut-être. Hein, je ne suis pas un historien, donc peut-être je me mêle de ce qui ne me regarde pas.
Mais vous avez le droit.
Et je peux...
vous êtes un praticien, donc vous pouvez tout embrasser.
Voilà, bon, mettons, avec les risques d'erreur, il y a les deux tableaux du Gréco du Louvre, mais il y a un certain intérêt qui vient, comme souvent, des peintres. Et n'oublions pas que la filiation Manet et le Gréco... m'a toujours apparu flagrante.
En quoi la voyez-vous?
Dans la manière. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'extravagance. Hein, il n'y a pas de la distorsion, il n'y a pas cette altération. Mais le Manet n'en est pas moins, probablement, le plus, avec Cézanne et quelques autres, le plus grand peintre de tous les temps. Enfin, c'est un peintre absolument immense.
Et directement, donc, héritier du Gréco, comme Cézanne aussi est un héritier
tout à fait.
Du Gréco. C'est alors, le Gréco Cézanne, qui fait le alors, lien entre oui. la peinture vénitienne
oui.
et la peinture des avant-gardes.
Alors, Cézanne accueillerait, quand je dis, voilà, dans le cas de Manet, il y a des Gréco, on dirait, d'ailleurs, dans l'exposition du Grand Palais, on dirait des Manet. Donc, et on peut comprendre la passion. Manet a été un des rares artiste français qui a été à Tolède. Il a examiné...
Parce que Cézanne n'est pas allé à Tolède, par exemple.
Oui,
il n'a pas vu ces Gréco-là.
Oui, on peut recevoir. Cela dit, Cézanne n'a pratiquement jamais voyagé. Comme vous savez, il n'en était pas moins extrêmement savant. Alors, la filiation Je dirais l'effet Gréco au propos de Cézanne est manifeste. Si vous regardez dans les photographies en noir et blanc de Cézanne dans son atelier, on aperçoit peut-être pas des copies de sa main, des gravures du Gréco. Oui. Et j'ai vu dans le catalogue, je la connaissais pas. Reproduite dans le catalogue, la fameuse dame à la fourrure, qui est probablement pas un Gréco, enfin, c'est d'attribution très incertaine, peinte par Cézanne.
Est-ce qu'il y a un lien, par exemple, entre ce tableau, qui est un tableau très moderne du Gréco, de la ville de Tolède, où il n'y a que la ville de Tolède, et même une ville de Tolède hallucinée, une ville de Tolède sous LSD, il n'y a pas de personnage, ce qui est très très rare pour l'époque.
Et c'est même le premier, je crois.
C'est sans doute le premier. Et la manière dont Cézanne peint, de manière un peu aussi hallucinée, la montagne Sainte-Victoire.
Alors, c'est le génie de Cézanne, hein, bien sûr. À la différence de Manet, qui lui va, au fond, prolonger ce que j'ai nommé la fusiste, la picturalité, d'une certaine façon, enfin, la présence des corps, et notamment des corps masculins, qui est saisissante dans le cas de Gréco, notamment. Tandis que Cézanne va capter les deux dimensions, enfin, le Gréco en a bien plus, hein, bien entendu, mais Cézanne va s'attaquer à la structure même de notre perception.
Mmh. La vision, vraiment.
Tout à fait. Ce qui va le faire passer pour un fou. Donc, il va... j'ai écrit un livre sur Cézanne. Et en effet, moi, je suis... J'ai une passion égale pour Cézanne. Donc, il touche à la structure comme le Gréco. Et il touche à la matérialité de la peinture, qui est d'une beauté extraordinaire, dans le cas de Cézanne, également.
Il faut aussi parler, évidemment, au XXe siècle, de Picasso.
Precisamente ese último Greco, que es el que le parecía loco a sus contemporáneos.
Justement, Greco, qui semblait fou aux yeux de ses contemporains, c'est lui qui fascine Picasso. Il fascine aussi les autres peintres de l'époque. Cézanne se tourne vers lui. Degas collectionne ses œuvres.
Que en ese momento, ahora no es conocido, pero que fue muy importante en París, español.
Un autre peintre espagnol très connu, Zuloaga, qui habite à Montmartre, près de chez Picasso.
Él tenía l'Apocalypse de San Juan del Greco, que es una obra.
Et qui vit dans un milieu plus bourgeois, possédait l'Apocalypse de Saint Jean del Greco.
Picasso está yendo constantemente.
Qui était une œuvre fascinante. Cuadro, que está a dos calles. Et lorsqu'il était en train de peindre les Demoiselles d'Avignon, Picasso allait constamment regarder ce tableau qui était à deux pas de chez lui.
Era desconocido. Después,
El Greco était méconnu. Il incarnait les préoccupations de ce début de siècle. C'était un peintre qui intéressait les fauves parce qu'il utilisait des couleurs complètement arbitraires et qu'il déformait la perspective. Mais il est intéressé aussi par son spiritualisme avec ses figures, ses personnages allongés. El Greco correspondait aux aspirations des avant-gardes, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est pas établi, mais avec un langage potentiel infini.
La compagnie des œuvres. On écoutait à l'instant l'historien de l'art espagnol Francisco Calvo Celariel dans La Grande Traversée Picasso de 2012. Alors, dans quelle période de Picasso vous voyez le plus apparaître le Gréco?
Alors, de manière vraiment, si on est simplement formaliste, la période bleue et même un peu avant. Assume littéralement, hein, une filiation non seulement dans la structuration, dans la peinture des corps, mais dans
là aussi très allongé,
tout à fait dans la
et très onirique, enfin
exactement, et puis dans la monochromie. Au fond, il y a une l'œuvre du Gréco s'en va au fur et à mesure de l'âge, hein, dans les fonds notamment, il y a une sorte de monochromie verdâtre et grise qui est très belle.
Et puis il y a une référence directe à l'enterrement du comte d'Orgaz dans, je crois, le tableau de l'ami de Picasso qui est mort très jeune, suicidé, Casagemas,
oui. En effet. Oui, là c'est un hommage assumé par le Greco, hein, en effet. Par le Picasso, pardon. Mais il y a une autre présence du Greco qui est sur la question de la mort, enfin, de la réfutation de la mort. Hein, je crois que c'est très important, cette dimension. Et rien n'est plus beau. Plus la mort avance et plus elle menace la main. Hein, la main ne tremble pas comme celle du Greco. Je pense au dernier autoportrait de Picasso au pastel, qui nous regarde, n'est-ce pas, et qui a l'air d'une sculpture, qui a la fermeté d'un crâne peint.
Puisque vous parlez de la réfutation de la mort, on ne peut pas ne pas écouter ce qu'en disait le poète Claude Esteban au micro de Jean-Louis Aisine, puisque vous l'aimez beaucoup.
Je l'aime beaucoup.
J'ai pour ma part comme ressenti que la mort chez Greco n'avait pas ce côté désespérant, funèbre, effrayant que les Espagnols donnent en général à cette époque à la mort, n'est-ce pas, la pourriture, les vers, mais au contraire, et en cela évidemment il est peut-être à la fois byzantin, italien, il est surtout lui-même, n'est-ce pas, cette créature, cet homme ne disparaît pas dans la mort, mais il a l'air de s'endormir, n'est-ce pas, et son âme le quitte pour accéder au règne supérieur, bleu pâle et blanc, n'est-ce pas, de la vie spirituelle, sans qu'il y ait besoin de passer par justement la disparition effrayante de la chair, la réduction en cendres, etc. Donc il y a un univers très spirituel où la réalité immédiate, comme les corps d'ailleurs, peu à peu s'échappent, s'envolent, partent en flammes. Et je crois que c'est une vision tout à fait particulière et qui lui est personnelle.
Pas effrayante avec le Greco. On a l'impression, quand on regarde ces tableaux d'enterrement par exemple, qu'il s'agit plutôt d'un très long sommeil. Il y a quelque chose presque de réconfortant là-dedans.
Alors il y a un très beau texte, hein, justement de Claude Esteban, qui est un des plus beaux qui soit sur le Greco, qui s'appelle justement donc La dormition du comte d'Orgaz.
Et non pas l'enterrement.
Donc, là, il y a une extension qu'il fait et qui, à mon avis, est tout à fait profonde et légitime, que le poète fait de la notion très ancienne, hein, c'est le seul mot du mot, donc, de l'opération mystérieuse qui vient de très loin, des Grecs, des Romains, puis repris après par les Italiens, puis par les en Crète, et qui est donc c'est le seul mot qui n'a qu'un seul attribut, hein. La dormition est un mot très beau et qui désigne précisément le dernier sommeil de la Vierge. La Vierge donc ne connaît pas la mort. Voilà,
donc, comme les personnages du Greco. Et on sent que ça vous apaise.
Oui, et là, moi, je crois qu'il faut aller plus loin. Je pense que tout art est une victoire sur la mort. Donc, d'une certaine façon, un peintre affronte à la fois, peut affronter, le tragique de la vie. Mais il sait très bien que ce qu'il fait lui survivra, qu'il soit bon ou mauvais.
Puisqu'on en est à parler de la postérité du Greco, j'aimerais qu'on aille encore un petit peu plus loin et qu'on dise un mot sur Proust, puisque dans la recherche, il est, à deux reprises je crois, question du Greco.
Oui, alors le Greco est cité, je crois, maintenant, écoutez, les Proustiens, les spécialistes vont me... Mais je crois bien qu'il revient trois fois. Et on pourrait presque dire, n'est-ce pas, d'ailleurs... Je n'ai pas les citations de la recherche, hein, sous les yeux, mais il y a, pour moi, un mouvement qui peut être comparable.
Entre les deux œuvres, vous voulez dire ?
Tout à fait. Un mouvement, si on prend toute la recherche, et si on... D'abord, le sommeil, les deux sont une sorte de chronobiologie du sommeil, enfin de la nuit, d'un corps endormi, puis éveillé, puis interrompu par la vision, et puis repris dans le langage. Donc il y a, j'ai jamais pu moi penser à Proust sans penser au Gréco. Mmh. Il y a une, là on n'a pas le temps de le développer, mais et Proust y autorise, hein, d'ailleurs, parce que les citations qu'il fait, l'une d'elles évoque justement la structure à la fois horizontale du sommeil, hein, nous dormons à l'horizontale. Il y aurait mille choses à faire.
Il y aurait mille choses à faire.
Du temps, notamment.
Oui.
C'est la même idée du temps.
Du temps. Et pour aller encore plus loin, il faut aller jusqu'à Warhol, aller jusqu'à Godard, et interroger le rapport entre Gréco et le cinéma. Vous le faites vous-même, Jean-Paul Marcheschi.
Oui, il donne cette citation qui est très belle et très juste, hein, des Einstein, c'est Godard dont vous parlez.
Oui.
Oui.
Et il dit, je la cite. Hein,
citez-la, voilà. En cas, je serai dans l'erreur, comme toujours.
Le peintre, il ne faut pas parler du peintre quand on parle du Gréco, dit Eisenstein, il faut parler du maître du montage. Mais alors, comment est-ce qu'on peut être un maître du montage quand on peint une seule image ? A priori, il ne devrait pas y avoir de montage.
C'est là où Eisenstein, que j'admire infiniment, hein, bien sûr, est très juste et très, tout à fait génial. On n'a pas parlé, bon, il y a tellement d'objets à traiter dans le Gréco. C'est là où je crois que la Crète revient, c'est-à-dire surtout le Byzance, l'icône, n'est-ce pas, qui pratiquait justement, au lieu de diviser dans une près d'elle des scènes qui s'ajoutent, mais qui sont séparées, l'art de Byzance va donner simultanément des moments du récit différents. Et dans le cas du Gréco, on ne l'a pas dit, mais prenons par exemple ce tableau qui est dans l'exposition du Grand Palais, il y en a deux, il y a d'innombrables versions. Si on prend par exemple l'agonie du Christ au Jardin des Oliviers, tableau absolument bouleversant, on a tout, on a les larmes du Christ, mais on a à la fois le sommeil. Selon les versions, on va avoir d'ailleurs un déplacement. Les apôtres dorment, le Christ agonise, et dans le fond, s'annonce déjà l'arrestation.
Donc hein, c'est presque du split screen, comme dans l'enterrement du comte d'Orgaz, où on a en bas la scène de l'enterrement, et puis en haut la scène céleste. C'est ça qu'il veut dire peut-être, Eisenstein?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment le montage. C'est-à-dire, on va monter. On peut pas dire qu'il y a un montage, qu'il y ait du montage, par exemple, je ne sais pas, chez Piero della Francesca. Ou... Bon, mais là, il y a véritablement une synthèse. On va donner des choses improbables, des temps qui, en apparence, n'ont aucune... Et des moments, et des sens qui n'ont apparemment aucun rapport. On va les donner à l'intérieur. L'œil voit le tableau tout de suite, en entier.
Merci Jean-Paul Marcheschi d'être venu nous voir aujourd'hui. Je renvoie nos auditeurs sur votre livre « Un grand sommeil noir, le Gréco » paru aux éditions Artois. C'était La Compagnie des œuvres, une émission d'Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière, Didier Pinault et Youtou Diego Ac Lopez. Demain, vous retrouvez Manu Farine pour La Compagnie des Poètes. Et nous, on se dit à lundi pour une semaine littéraire autour de Samuel Beckett. Dans un instant, les sciences.